C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Rémi.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui comme chaque mardi à midi pour parler science avec différents invités.
Nous sommes le mardi 13 décembre et aujourd'hui nous allons parler des bactéries. L'actualité est d'ailleurs marquée par l'ouverture la semaine dernière du procès Buitoni, mais aussi de l'inquiétude autour de la bactérie Streptocoque A qui a déjà tué des enfants, notamment au Royaume-Uni.
L'occasion donc pour nous de comprendre ce qu'est une bactérie, la différence entre les bonnes et les mauvaises, les gestes pour se prémunir des infections ou encore la recherche sur le sujet.
Pour en parler avec nous, on reçoit à notre micro Simon Lehello, microbiologiste, responsable hygiène au CHU de Caen.
Mais avant, c'est l'heure des infos sciences de la semaine. Et on commence ce journal avec l'amérissage réussi ce dimanche du vaisseau Orion.
Et oui, après plus de 25 jours de mission, le vaisseau spatial Orion est de retour sur Terre, marquant ainsi la fin de la mission Artemis 1, une mission qui n'est pas anodine puisqu'elle vise à préparer le retour d'êtres humains sur la Lune, mais pour ce qui est d'Artemis 1, aucun astronaute n'était à bord pour cette mission.
Ce qui ne sera normalement pas le cas pour le prochain décollage prévu en 2024.
Non, en effet, une nouvelle mission, baptisée Artemis 2, est prévue pour dans 2 ans, et cette fois-ci, des astronautes devraient bien embarquer dans la capsule, elle devrait les emmener jusqu'à la Lune sans pour autant que le vaisseau ne s'y pose. À noter d'ailleurs que des éléments du vaisseau Orion seront réutilisés pour la mission Artemis 2. Une découverte au fin fond du Groenland qui nous fait découvrir un paysage préhistorique de 2 millions d'années.
C'est une découverte qui repousse encore les limites de la science. Un échantillon d'ADN de 2 millions d'années a été découvert par une équipe de chercheurs à l'extrême nord du Groenland. En théorie et en pratique, cette découverte paraît invraisemblable parce que tous les 521 ans, une molécule d'ADN se désagrège de moitié, une autre moitié 521 ans plus tard, ainsi de suite, pour au final ne laisser quasi aucune trace des centaines de milliers d'années après. Le plus vieil échantillon d'ADN daté jusqu'alors de 1 200 000 années, ce qui repousse le record d'un million d'années, rien que ça.
Mais alors, qu'est-ce qui nous apprend ce fameux échantillon ?
Eh bien, il nous fait découvrir un tout autre paysage que le Groenland actuel. Aujourd'hui, c'est une terre glaciale et inhospitalière. Il y a 2 millions d'années, c'est une forêt boréale avec une grande diversité de végétaux et d'animaux, des rennes, des oies, des lièvres qui côtoient des mastodontes, des mammifères avec apparemment une trompe et 4 défenses. Bref, une découverte qui nous en apprend plus sur les paysages et les climats du passé. Elle s'est démocratisée ces dernières années et pourtant la téléconsultation ne bénéficie surtout qu'aux jeunes patients citadins.
Et oui, une étude publiée jeudi dernier par la direction statistique des ministères sanitaires et sociaux montre que la téléconsultation, qui devait entre autres être une solution face aux déserts médicaux, peine à remplir cette mission puisque seuls 2,2% des consultations se font à distance dans les territoires ruraux et en outre-mer, contre 12% dans une ville comme Paris par exemple. Mais on le disait, la fracture est également générationnelle. Sans surprise, les personnes plus âgées, moins à l'aise avec les nouvelles technologies et bien plus habituées au contact direct avec leur médecin, sont sous-représentées dans les téléconsultations, ce qui est l'inverse des 15-44 ans qui semblent désormais préférer la téléconsultation. À titre d'exemple, seuls 28,7% des consultations en cabinet concernent les 15-44 ans. La COP15 de la biodiversité se déroule en ce moment même à Montréal. Les scientifiques et experts sur place ont déjà pointé du doigt le danger des biotechnologies génétiques.
Oui Simon, la biotechnologie génétique, pour expliquer, c'est par exemple la modification des gènes d'une espèce. Concrètement, on force le changement d'un gène d'un individu, d'une espèce de végétaux, comme le rendement ou la résistance au climat, et ces gènes vont se transmettre à toutes les autres espèces.
Et cela peut avoir de graves conséquences.
Oui, en effet, cela a un impact sur la diversité des espèces végétales, mais aussi celle des pollinisateurs. Si un gène s'étend partout, des espèces entières vont disparaître, et cela peut compromettre gravement la biodiversité. Les scientifiques appellent donc à la prudence et au principe de précaution. Sans certitude scientifique, il est nécessaire de prendre des mesures pour éviter de graves conséquences sur la biodiversité. Les défenseurs du climat se disent très préoccupés par cette COP15 et du manque de mesures qui pourraient en découler. Fin des négociations à Montréal lundi 19 décembre. Baisser le couvercle des toilettes est un geste anodin, mais selon une expérience, c'est un geste important.
Et oui, une expérience menée par les scientifiques de l'université de Colorado grâce à des lasers a permis de montrer que lorsqu'on tire la chasse d'eau, un panache de gouttelettes et d'aérosols potentiellement chargés en bactéries et en virus se propage à une vitesse atteignant les 2 mètres par seconde hors de la cuvette.
Des bactéries et des virus, on pourrait donc attraper des maladies en tirant la chasse d'eau.
Et oui, de nombreuses études démontrent déjà depuis longtemps que des agents pathogènes trouvent refuge dans nos cuvettes. Baisser sa cuvette au moment de tirer la chasse d'eau est donc un enjeu de santé publique, car les gouttelettes peuvent contenir par exemple la bactérie E. coli colis et peut-être même le virus du Covid-19, même si pour ce dernier, ça reste encore à prouver.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Souvent associées à des maladies ou à des scandales sanitaires, les bactéries sont des micro-organismes encore trop méconnus et pourtant elles sont partout et nous sont très utiles.
Pour comprendre leur fonctionnement, leurs caractéristiques, les différents types de bactéries ou encore leur interaction avec le corps humain, nous recevons Simon Loello. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes microbiologiste, responsable hygiène au CHU de Caen. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la définition d'une bactérie ? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça englobe ?
Une bactérie, c'est un micro-organisme vivant qui vit un peu partout, qui est donc ubiquiste, qu'on retrouve dans l'environnement, qu'on retrouve dans le tractus digestif des animaux, quelle qu'elle soit, y compris l'homme. Donc c'est un micro-organisme vivant qui a ses particularités de vie et autonome grâce en fait à une code génétique qui lui permet d'être totalement en symbiose avec son environnement.
On confond souvent bactéries et virus, mais qu'est-ce qui les différencie ?
C'est en effet une bactérie, c'est un peu plus gros en fait qu'un virus, c'est un peu plus développé. On a en effet une structure un peu plus développée, mais qui finalement a son désavantage parfois pour la bactérie, puisqu'en fait elle a une capacité d'adaptation qui est peut-être plus lourde à mettre en place vis-à-vis d'un virus dont on voit évidemment à travers les derniers événements comme le Covid, une espèce de variation, une variabilité très importante qui lui donne un avantage d'adaptation peut-être plus rapide.
Et au niveau de la transmission, virus et bactéries, c'est différent aussi ou on retrouve des similitudes ?
Non, il y a des similitudes. Donc il y a des bactéries qui sont aussi transmissibles par les voies aériennes. On pense souvent au virus. Ça peut être aussi manuporté, virus et bactéries. Ça peut être digestif. Ça peut être un péril, ce qu'on appelle orofécal, c'est-à-dire en fait lié à l'alimentation et puis le déversement éventuellement de bactéries à travers de l'alimentation. Donc c'est assez similaire en fait en termes de transmission.
Et autre micro-organisme vivant, c'est la moisissure ou la levure. Mm-hmm. Pareil, quelle différence ? Est-ce qu'il y a des points communs ?
Donc la levure, en fait, les champignons tout simplement sont des organismes encore plus développés que les bactéries. Et donc on met en place en fait un système en fait qui est encore plus lent en fait en termes de croissance et de multiplication. Mais on retrouve également les mêmes caractéristiques de transmission. Ça peut être aéroporté, ça peut être manuporté, ça peut être un peu partout, etc. Mais on est sur trois développements, on va dire peut-être plus développés entre le virus, la bactérie et les champignons.
Physiologiquement, ça se présente comment une bactérie ? À quoi ça ressemble ?
Y a un noyau, y a une membrane, il y a un cytoplasme. Dans le noyau, il y a le code génétique, l'ADN qui est présent, et voilà, donc on a à peu près la structure qui est quand même extrêmement simple, qui est unicellulaire en fait, et qui se développe comme ça.
Si c'est vivant, ça doit naître, comment ça naît une bactérie ?
Alors c'est une transmission qui est faite à travers un échange, une scission en fait, d'une cellule mère en deux, qui permet d'avoir des générations suivantes. C'est une multiplication qui est extrêmement rapide, puisqu'en fait on a pour certaines bactéries une naissance toutes les 8 heures à peu près, donc ça va très très vite en termes de génération.
Donc elles sont nombreuses, puisque toutes
elles
les 8 heures
nombreuses.
On imagine que ça se développe facilement. Dans une pièce, on va dire, de taille moyenne à peu près, combien de bactéries est-ce qu'on peut retrouver ? À quel point est-ce que c'est présent ?
Là c'est très compliqué à répondre, mais en effet si on prend les selles, la matière fécale, qui est quand même un fluide qui est souvent regardé justement pour la présence de bactéries ou de virus, on est à des niveaux de l'ordre du milliard en fait par gramme de sel. Donc on est quand même quelque chose de très important.
On les trouve vraiment partout ces bactéries ?
Partout, y compris sur le micro de Radio Phoenix.
Et comment est-ce qu'elles prolifèrent ? Est-ce qu'il y a des environnements qui facilitent aussi leur multiplication ? Ou est-ce que n'importe où elles vont s'adapter et se multiplier ?
En fait, ça dépend de la bactérie. Chacune a son adaptation. En fait, c'est ça la force d'une bactérie, c'est son adaptabilité à son environnement. Donc, quel que soit, en fonction de l'environnement où vous êtes, c'est vrai que vous tombez sur plus ou moins un tel type de bactéries. On a des bactéries plutôt de surface, on a des bactéries plutôt digestives, on a plutôt des bactéries qui ont une adaptation, on va dire, en fonction de son environnement.
Et du coup, c'est quel type d'environnement qui favorise aujourd'hui la multiplication de bactéries ?
Toutes. Il y a pas de on retrouve même des bactéries à moins 20 degrés, on trouve des bactéries résistantes à la chaleur à plus de 100 degrés partout. Ça fait partie, en fait, si vous voulez, de la naissance de la Terre. Donc, en fait, on est sur une adaptation à l'échelle planétaire. Donc, et en fonction de l'évolution de la Terre. Donc, on est vraiment sur ce côté-là, quoi.
Et c'est des bactéries qui sont négatives?
C'est-à-dire pathologiques,
c'est... Oh, pathologiques, oui.
Non. Donc, là, principalement, la plupart des bactéries, elles ont un rôle plutôt bienfaitrice, hein. Donc, on est sur des organismes qui font partie de la biodiversité nécessaire, en fait, à la vie, en général. Et au sein d'un organisme humain, si on prend l'homme particulièrement, on est sur une quantité de bactéries qu'on possède qui est extrêmement importante, dont d'ailleurs on dit que si on regarde un peu leur contenu génétique, c'est au-delà du contenu génétique d'un homme. Donc ça veut dire, c'est très important ça d'avoir cette notion, c'est qu'on a en effet ce qu'on appelle des microbiotes, c'est-à-dire l'ensemble des microbes d'un organisme ou d'un organe. Donc si on prend le tube digestif, ce microbiote a probablement un rôle extrêmement important, puisqu'en fait il apporte un pouvoir, on va dire, de métabolisme qui aide tout homme, et également une capacité à avoir un matériel génétique qui est probablement très utile à l'homme. On est encore sur le phénomène d'adaptation entre un homme et sa symbiose, donc avec des organismes qu'il possède.
Et il aide dans quoi, du coup, c'est l'organisme vivant? En quoi est-ce que la bactérie va l'aider concrètement?
Dans le métabolisme, hein, donc ce qu'on peut éventuellement noter, c'est quand on est sur ce qu'on appelle une dysbiose, c'est-à-dire en fait un déséquilibre d'une flore, qu'elle soit cutanée, qu'elle soit digestive. Et dans ces paramètres-là, on voit des pathologies apparaître. Donc on commence à associer, si vous voulez, un certain nombre de maladies qui ne sont pas du tout infectieuses par justement des déséquilibres de flore, soit digestive, soit cutanée, soit voilà, de tout fluide. Donc voilà, il y a des associations qui sont faites éventuellement avec le diabète, qui sont faites éventuellement avec l'autisme, plein de choses comme ça. On se demande si en effet une altération d'un microbiote peut être une cause très probable d'origine de ces pathologies. Donc ça, on est vraiment dans le domaine de la recherche et on va vers ces choses-là, c'est-à-dire que, d'ailleurs on l'entend de plus en plus, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir une volonté de connaître un peu le microbiote de chacun pour avoir essayé de définir ce que c'est qu'un microbiote normal d'un microbiote anormal, pour essayer de comprendre un peu les équilibres nécessaires au bien-être humain.
Et donc l'anormalité d'un microbiote peut venir en partie d'une absence de certaines bactéries, c'est ça?
Alors la normalité, en effet, c'est l'absence de bactéries pathogènes, mais la plupart du temps, les bactéries sont non pathogènes, donc nécessaires. Et c'est vrai que les microbiotes sont très différents, par exemple, des ethnies, des endroits géographiques, de là où on vit, de notre façon de s'alimenter. Tout ça est en effet très associé, donc très intéressant à essayer d'étudier pour comprendre un peu ce qui finalement est bon ou pas bon pour notre santé.
Ça, c'est au sein de notre organisme. Mais c'est quoi les relations, les interactions qu'on a avec les bactéries de notre quotidien que l'on trouve, je sais pas, dans notre baignoire, sur notre micro de Radio Phoenix?
Alors bon, sur le micro, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'échanges. Dans la baignoire non plus, je pense pas. Mais ce qui est vraiment nécessaire, c'est en effet la présence de certaines bactéries dans des fluides biologiques qui ont un rôle notamment purement de dégradation d'aliments qu'on peut manger. Ça nous aide en fait, hein, beaucoup à éliminer, à absorber, à cataboliser certains aliments, par exemple, qu'on peut manger. C'est un exemple.
Pour revenir sur un peu le plan de la maladie, enfin des pathogènes, oui. La question des antibiotiques, on en entend beaucoup parler, justement le fameux slogan « c'est pas automatique » quand on parle des virus, mais du coup pourquoi est-ce que, si je dis pas de bêtises, c'est efficace contre les bactéries? Pourquoi est-ce que l'antibiotique aujourd'hui marche sur une bactérie et pas sur un virus?
Alors oui, donc c'est vraiment des cibles qui sont spécifiques à la façon de vivre d'une bactérie. Donc c'est des cibles qui sont, les antibiotiques ont une cible qui permet la destruction soit d'une membrane, soit d'une réplication d'ADN, etc. Donc on est vraiment sur quelque chose de ciblé qui ne peut marcher que sur la bactérie. C'est presque l'invention qui fait ça, c'est-à-dire qu'en fait on a voulu traiter des pathologies bactériennes et voilà, on s'est aperçu que certaines molécules avaient une activité antibactérienne. Bon, donc du coup on les utilise dans ce sens. Par contre, ce qui est intéressant dans les antibiotiques, c'est pas automatique, il y a plusieurs niveaux. En effet, quand vous êtes dans une infection virale certifiée, du coup, comme c'est pas efficace vaut mieux éviter de l'utiliser.
Ça reste c'est important pas, quand même de
c'est
le rappeler.
C'est pas nécessaire, c'est voilà. Que... L'élément secondaire, en fait, on va dire collatéral, par rapport à l'usage des antibiotiques dans un usage qui n'est pas utilisé pour un traitement spécifique, c'est en effet la génération peut-être de mutants qu'on peut créer qui deviennent résistantes à ces antibiotiques. Donc là, la notion vraiment du slogan « les antibiotiques, c'est pas automatique », c'est pour préserver, si vous voulez, une efficacité des molécules aujourd'hui face à des bactéries qui pourraient être de plus en plus résistantes. Donc on est vraiment dans une protection des molécules, d'autant que la recherche est devenue de plus en plus complexe, difficile, et les nouvelles molécules thérapeutiques sont peut-être pas aujourd'hui suffisantes par rapport à l'évolution rapide de la résistance aux antibiotiques. Donc on est vraiment dans un phénomène plutôt de contrôle et d'éviter de consommer à outrance en fait les antibiotiques. Et à outrance, c'est-à-dire vraiment dans un usage qui n'est pas celui qui est normalement dédié, c'est-à-dire le traitement d'une maladie. C'est vrai pour l'animal, c'est vrai pour l'homme, et c'est vrai que longtemps ces antibiotiques ont été utilisés comme, on va dire, promoteurs de croissance, notamment pour les industries agroalimentaires ou les élevages intensifs, puisqu'en effet ça protégeait les animaux des infections presque par prévention, alors que là du coup on a généré quand même une modification d'écologie et donc une sélection des bactéries les plus résistantes, c'est-à-dire aux molécules qu'on utilisait. Donc c'est ça le deuxième effet un peu complexe, c'est que du coup on va modifier aussi les écologies et le microbiote dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que là on va donc tuer un peu toutes les bactéries sensibles à cet antibiotique, et donc on génère une dysbiose, donc vraiment une modification de la flore, et donc éventuellement quelque chose de délétère pour l'homme. Donc on a un effet très bénéfique un peu immédiat sur l'antibiothérapie, donc ça c'est nécessaire quand vraiment il y a une pathologie expressive, mais quand c'est pas expressif, quand il n'y a pas vraiment besoin, vaut mieux pas l'utiliser quoi.
D'ailleurs, c'est quoi les infections bactériennes les plus fréquentes? Est-ce que c'est forcément des bactéries mutantes?
Ah non, non. Donc on peut acquérir n'importe quelle bactérie qui est éventuellement pathogène pour l'homme. Et dans ce cas-là, quand on est sensible aux antibiotiques, quand on a vraiment une sensibilité à large spectre d'antibiotiques, c'est quand même plus facile à traiter. Si malheureusement, on se retrouve devant une bactérie multirésistante, évidemment, notre possibilité de traitement devient de plus en plus réduite. Donc ça c'est disons que ça touche principalement les personnes qui ont eu l'habitude de traitements un peu réguliers, des personnes un peu fragiles qui sont souvent hospitalisées. Donc l'hôpital est évidemment une zone où en fait l'antibiothérapie, les antibiotiques sont très utilisés, ce qui est normal, hein, c'est le but d'un traitement et d'une prise en charge anti-infectieuse. Et donc du coup ces personnes-là peuvent héberger en effet des bactéries multirésistantes qui peuvent rester très longtemps. Et donc évidemment quand tu as une pathologie qui arrive 3 semaines, 2 mois, 1 an après une hospitalisation, il y a un risque potentiel de résistance au traitement qu'on donne. Voilà, d'où l'intérêt de surveiller un peu ces bactéries, de les isoler au laboratoire pour faire un diagnostic et de connaître surtout leur sensibilité aux antibiotiques pour finalement orienter le clinicien, le médecin, au bon usage de la bonne molécule, la bonne dose, pour être efficace tout de suite et éviter évidemment ces dommages collatéraux dont je parlais tout à l'heure.
Ça peut être quoi les conséquences à long terme d'une exposition à une bactérie?
C'est l'hébergement de bactéries multirésistantes, et quand on devient fragile, à un moment donné on devient fragile. Et donc du coup il y a une réactivation, et là on exprime la présence de bactéries multirésistantes, et donc on est face parfois à une impossibilité de traitement, ce qui peut arriver.
Et donc quand on a ces infections bactériennes en général, quelles sont les maladies les plus fréquentes qu'on développe, ou pas forcément les plus fréquentes, mais en tout cas les plus... quelles sont les différentes maladies qui existent?
Voilà, il y en a plein, donc on est sur des maladies intestinales, donc les diarrhées, voilà, fébriles, on est sur des maladies respiratoires, on est sur des maladies cutanées, voilà, c'est très très variable, ils sont un peu partout et responsables de pas mal de maladies.
Comment on s'en prémunit? Quels sont un peu les gestes qu'il faut adopter pour éviter ces infections?
Oui, ça c'est intéressant comme question, on est dans la prévention du coup. Et c'est vrai que la notion de comptage, c'est-à-dire en fait la notion d'être au plus près d'une personne malade, on est sur de l'infectiologie, donc on est sur une transmissibilité, hein, une contagiosité, pour être sur un terme peut-être plus simple. Donc on doit se prémunir. Donc quand on est dans une même famille, c'est pas forcément évident, entre la mère et l'enfant par exemple. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que c'est peut-être ce qu'on appelle l'hygiène en fait. Et c'est des hygiènes qui peuvent être assez simples, se laver les mains. En fait, avec le Covid, on a appris à le faire fortement, mais c'était quand même quelque chose qui était très important. Et puis donc se laver les mains, se mettre un masque de protection quand c'est de la transmission aéroportée. Voilà, s'isoler parfois hein, quand on est très malade, rester dans sa chambre, ne pas en sortir tout le temps, être un peu en distanciation. Toutes ces choses-là qui sont devenues évidentes et très très martelées lors du Covid, c'était des choses qui étaient déjà existantes depuis la nuit des temps. Hein. Donc la mise en quarantaine, par exemple, c'est des choses qui existaient depuis très très longtemps pour se prémunir de la transmission et éviter finalement des flambées épidémiques extrêmement fortes. Donc oui, si on veut lutter contre les infections bactériennes mais aussi virales, mieux vaut avoir en effet une prévention juste face aux pathologies.
On continue de parler des bactéries avec vous, Simon Lehello, mais avant, c'est l'heure de faire une petite pause musicale avec J'en ai assez vu de Métronomie et Sébastien Tellier. À tout de suite sur Radio Phoenix.
Vous êtes écouté, j'en ai assez vu de Métronomie et Sébastien Cellier. Vous êtes toujours sur Radio Phoenix et vous écoutez C'est pas faux. Nous sommes avec Simon Lehello, microbiologiste au CHU de Caen. Et pour parler de l'actualité, ces dernières semaines, une bactérie inquiète, notamment en France et au Royaume-Uni où des enfants sont décédés. Cette bactérie, c'est la streptocoque A. C'est quel genre de bactérie?
Oui, c'est une bactérie. Bon, c'est Streptococcus pyogenes ou streptocoque du groupe 1. Donc c'est ce qui génère en fait des angines souvent régulièrement. Donc c'est des choses qui existent depuis très longtemps. Hein, donc donc on est sur un syndrome pseudo-grippal, parce que plutôt bactérien du coup. Mais plutôt ce genre de pathologie. Et éventuellement également, il y a une proportion à faire des infections cutanées qui sont assez gravissimes, parfois assez fulminantes, donc qui peuvent être très rapidement. Donc je connais pas le contexte des streptoa, mais d'un point de vue médiatique, mais je ne connais pas les pathologies qu'il y a derrière en Angleterre. Mais en tout cas, souvent, on est soumis comme ça à des alertes d'augmentation. Donc c'est plutôt intéressant dans le sens où il faut comprendre pourquoi ça émerge comme ça d'un coup. Parce que si évidemment on comprend l'origine, quelque part c'est plus facile de lutter avec les moyens de prévention les plus simples parfois pour être efficace.
Oui, trouver les origines de ce type d'infection de masse, c'est en général la clé pour pouvoir ensuite mieux soigner et ensuite mieux prévenir aussi.
Ah oui, c'est une des clés, ça c'est sûr. Donc on est dans une approche qui... En fait, c'est intéressant ces systèmes parce qu'en fait, ils nous alertent très vite. Souvent, et donc du coup, chaque pays met en fait en branle son système de surveillance pour essayer d'apporter une pierre en fait à l'édifice. Souvent, un pays a un système différent de son pays voisin. Certains peuvent avoir en effet une solution en fait à l'épidémie qui se déroule par rapport en fait à des systèmes qui sont un peu différents. Donc c'est vrai que très rapidement, quand on comprend un peu l'origine, c'est quand même extrêmement facile de lutter. Après, les systèmes en fait de protection de la population, notamment pour le streptoa, donc streptocoque du groupe A, l'antibiothérapie est très efficace. Il n'y a pas de résistance particulière, donc en fait on est sur un traitement qui est quand même tout à fait adapté, quoi.
Il y a le scandale de la pizza Buitoni. Est-ce que c'est le même problème? Est-ce que c'est toujours un manque d'hygiène dans les chaînes d'industrie qui provoque ça?
Ah ben ça c'est clair. Il n'y a pas de doute sur le défaut finalement d'hygiène de production qui fait que en effet une pizza ou un œuf en chocolat se trouve contaminé par une bactérie. Donc là c'est vrai que c'est aussi intéressant, c'est vraiment c'est souvent dans les pays un peu où il y a un système de surveillance quand même relativement développé qu'on va détecter le phénomène, parce que finalement ça se voit pas forcément, parce que vous avez votre voisin, votre enfant, votre neveu qui est malade, vous ne faites pas le lien systématique, c'est quand même compliqué. Hein. Une pizza, quand même, tout le monde en mange plusieurs fois dans la semaine, au moins une fois, on va dire.
Une fois, ouais.
Et donc, du coup, faire le lien est très, très complexe. Très, très complexe. Il faut donc une cumulation de données et il faut une centralisation souvent des données avec une caractérisation très fine de la bactérie pour comprendre qu'on est sur un phénomène unique et lié avec ces contaminations. Juste pour rappel, les contaminations pizza Buitoni et les œufs Kinder, il n'y avait pas d'alerte provenant de l'industriel. Hein. Donc on est vraiment sur un système déjà dégradé dans le sens où ça touchait des enfants ou des jeunes adultes. Et donc c'est ce système-là de détection de malades qui fait que finalement on remonte très rapidement à la chaîne. Donc il y a plusieurs mécanismes qui peuvent être mis en place. Il y a des systèmes de surveillance très forts du côté vétérinaire. Hein. Il y a quand même des choses très strictes qui sont faites, des autocontrôles, etc. Donc ça peut éventuellement être détecté là, et tant mieux. Ça évite, évidemment, qu'on parle d'infection alimentaire. Donc ça évite l'infection des personnes. Et puis, malheureusement, quand ça bascule du côté humain donc, ou animal, c'est là où on se rend compte éventuellement d'un phénomène anormal qu'il faut investiguer très vite, parce que là, il n'y a qu'une solution pour vraiment être efficace, c'est d'enlever l'aliment contaminé.
Mais c'est possible sur ces grandes chaînes de production industrielle d'avoir un risque zéro, même si on a une surveillance vraiment accrue?
Non, 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 c'est bien tout le problème. On est sur un problème d'échantillonnage, on est sur des volumes très forts. Donc il y a en effet des échantillonnages qui sont faits à différentes échelles. On suppose que le système qui est mis en place est un système de protection optimisé, mais pas complètement sécure. C'est impossible, zéro sécurité, c'est impossible. Sinon, il faut contrôler tous les produits finis et ce n'est pas possible. Donc, on fonctionne par lot, c'est classique, hein, et on regarde certains lots et s'il n'y a pas de contamination, on considère que le lot en entier est tout à fait possible d'être commercialisé.
Les bactéries sont parfois utilisées dans le cadre de fabrication d'aliments, on pense au fromage, donc elles sont utilisées volontairement. Pourquoi est-ce que ces bactéries sont inoffensives dans le cas du fromage par exemple?
Ah bah alors, elles sont utilisées dans d'autres fonctions, hein, de saveur, on va dire de construction justement du fromage. Donc c'est intéressant aussi d'étudier le microbiote du fromage, hein, de la peau du fromage. Ça permet quand même d'associer une approche gustative de qualité liée au fromage. Donc ça, c'est des études qui sont faites aussi, hein, très fortement pour bien comprendre et, on va dire, finalement maîtriser la production d'un fromage tel que attendu en termes de qualité. Et donc, en général, ces bactéries ne sont pas du tout pathogènes. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes bactéries. Quand on parle, en fait, de bactéries pathogènes dans les fromages, c'est des bactéries qu'on ne souhaite pas du tout. Donc, on est sur un accident, on va dire, de production à un moment donné qu'il faut comprendre, quoi.
C'est quelle, la salmonelle?
C'est la salmonelle, c'est la listeria, c'est Escherichia coli, producteur de chia toxines, qu'on a retrouvé dans les pizzas, par exemple. Donc voilà, c'est ces bactéries-là qui, en effet, on est dans une volonté de zéro présence, quoi. Voilà.
Comme on l'annonçait un peu en début d'émission, vous êtes donc microbiologiste. Comment est-ce que vous travaillez, vous, en tant que microbiologiste? À quoi ressemblent vos recherches?
Alors, oui, donc bon, déjà j'ai une approche plutôt diagnostique, hein. Je travaille à l'hôpital, donc on fait des diagnostics, donc on analyse en effet les fluides biologiques des patients pour essayer de donner une approche diagnostique d'une pathologie infectieuse. Donc on isole une salmonelle, donc c'est une salmonellose, et donc on permet d'adapter le traitement adéquat et donc une prise en charge. Après, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est en effet la notion d'émergence. Donc on en a parlé depuis le début de cette interview, c'est de savoir comprendre les mécanismes d'émergence. Pourquoi certaines bactéries, d'un coup, deviennent en effet responsables d'épidémies parfois mondiales, hein, et, ou même régionales. Quels sont les critères, en effet, les facteurs favorisants de l'émergence? Est-ce que c'est l'antibiothérapie, ce qui est évidemment un facteur très fort pour les bactéries, hein, qu'on va sélectionner, etc. Est-ce que c'est d'autres phénomènes plutôt sociétaux, c'est-à-dire la façon dont on se nourrit, la façon dont on a modifié un peu notre façon de vivre, hein, qui font que finalement l'adaptation est présente et on fait émerger quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. Le vrai exemple, si je prends la pizza Buitoni, c'est assez intéressant. Le germe responsable, c'était un Escherichia coli. C'est un germe qui est symbiotique, hein. On en a partout, tout le monde en a. Mais celui-là, en fait, avait une toxine particulière. Et cette toxine, en fait, elle n'est apparue que dans les années 80. Donc on a appelé ça la maladie du hamburger. Voilà. Parce qu'en effet, on était sur des élevages intensifs aux États-Unis, très fortes, avec une pression d'antibiotiques qui n'était pas du tout interdite à l'époque, et qui ont pu générer des échanges particuliers avec d'autres bactéries. Et on a créé un peu comme ce qu'on appelle une chimère, c'est-à-dire en fait une bactérie un peu nouvelle avec des nouvelles toxines qui est d'un coup devenue très pathogène. Donc même de manière très récente, et le Covid est venu aussi l'indiquer, hein, donc on a aussi des émergences qui arrivent d'un coup d'un seul, comme ça, liées à des pratiques qui sont souvent humaines, de mésusages, de pratiques de destruction de la biodiversité, si on prend éventuellement le Covid, de vente d'animaux vivants dans des marchés à grande échelle. Voilà, toutes ces choses-là qui sont quand même extrêmement intéressantes, parce que quand on comprend ça, c'est quand même plus facile d'agir en amont pour éviter justement les contaminations humaines. Donc c'est un peu ça, mais mes thématiques de recherche et plus particulièrement la résistance aux antibiotiques. Voilà.
C'est des travaux qui ont des conséquences sur notre vie réelle. Comment se fait ce lien avec, avec quel genre de personnes vous travaillez pour communiquer vos recherches et puis que vos recherches soient appliquées dans...
Alors ouais, c'est intéressant. Donc c'est vrai que moi j'ai une proportion plutôt à m'intéresser sur, comme on parle d'émergence chez l'homme, il ne faut pas oublier en effet l'animal. Et donc, du coup, c'est cette interaction homme-animal qui m'intéresse plus particulièrement. Et donc, connaître l'épidémiologie des bactéries multirésistantes aux antibiotiques, autant chez l'animal que chez l'homme, c'est quelque part faire des ponts éventuels de compréhension entre un passage d'un secteur à un autre. L'environnement peut se rajouter. Et donc ça permet d'avoir une vision un peu globale, transversale, ce qu'on appelle une seule santé, parce qu'en fait c'est la santé humaine, environnementale et animale. Donc moi j'essaie d'en effet de travailler un peu avec tous ces secteurs pour essayer d'avoir une vision un peu générale, alors régionalement, hein, parce qu'on est quand même sur une terre agricole et productrice très importante, donc c'est plutôt intéressant de savoir un peu où se situent les problématiques. Des fois, c'est surprenant. On a plutôt des fois des idées que c'est certains élevages qui sont fournisseurs de telles pathologies, puis finalement, non, pas du tout. Donc, ça permet de protéger aussi les agriculteurs, les producteurs, et s'apercevoir qu'on est sur, en effet, des fois, des phénomènes strictement humains et qu'il faut aussi agir à ce niveau-là. Donc, après, comment je travaille, j'ai donc une activité de recherche, j'ai donc des doctorants que j'encadre et voilà, on avance comme ça. On essaie de publier dans des journaux qui nous permettent d'avoir un éclairage et de l'information visible. Et puis voilà.
Et vous passez à la radio.
Ouais. Pour retransmettre. Globalement, aujourd'hui, où en est la science en matière d'études des bactéries? Est-ce qu'il y a eu des découvertes récentes qui ont marqué le milieu?
Je dirais que la thématique, côté bactéries, parce que côté virus, ça c'est évident.
Oui, là on imagine qu'il y a plus d'actu, mais au niveau des bactéries,
voilà. Ouais. Niveau bactéries, il y a quelque chose qui commence... Alors, bon, il y a le côté nouvelles molécules qui pouvaient être efficaces, ça c'est vraiment des choses qui sont quand même importantes à avoir, parce qu'on peut comprendre les mécanismes, mais c'est bien aussi d'avoir des nouveaux traitements. Donc, les nouvelles molécules, je parle de chimie, hein, principalement. C'est vrai que si on a des nouvelles molécules efficaces, c'est toujours très intéressant en termes de recherche, mais en termes d'application, bien évidemment. Donc il y a cet aspect-là. Après, il y a en effet la compréhension de nouveaux mécanismes de résistance qui n'étaient pas connus et qui nous permettent d'être peut-être plus dans une approche compréhensive et d'adapter justement des nouvelles molécules à ces nouveaux mécanismes pour essayer de les traiter. Et puis cette vision évidemment transversale qui est assez nouvelle en fait, hein. Ce côté un peu une seule santé qui est quand même assez important et qui est très porté, on va dire, ces derniers temps à l'échelle de la planète. Donc on est pas mal à travailler sur cet aspect-là.
Est-ce qu'il y a encore un peu des mystères à percer sur les bactéries? On a un peu l'impression que la recherche est très évoluée et c'est un peu tout. Est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir?
Ah oui, il y a plein de choses à découvrir tous les jours. Et donc c'est vrai que... disons que l'homme fait beaucoup de choses dans l'évolution des bactéries et donc du coup ça va plus vite et puis la bactérie elle évolue très très vite aussi, donc on est tout le temps en retard. Et en fait comme moi je travaille sur l'émergence, on est déjà sur quelque chose qui est trop tard, qui nous paraît nouveau pour nous mais d'ampleur relativement importante pour qu'on puisse le détecter. Et si on le détecte, c'est quelque part les éléments favorisants ont été là pour une dissémination à très grande échelle. Donc en effet, c'est quand même intéressant aujourd'hui de comprendre un peu ces mécanismes et notamment cette notion pourquoi il y a des bactéries qui persistent comme ça tout le temps au même endroit. C'est qu'il y a des capacités quand même assez fortes d'être de résister à toutes les pressions autour d'elles.
Merci beaucoup Simon Loello d'avoir répondu à nos questions. On le rappelle, vous êtes microbiologiste au service hygiène du CHU de Caen. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
Bonne journée.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Mais avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine.
Et on commence l'agenda en allant au Dôme. Chaque week-end, cet espace d'innovation vous accueille pour différents ateliers. Et ce vendredi 16 décembre à 18h, vous pouvez vous initier à la modélisation 2D avec le logiciel Inkscape. Ce programme permet de faire de l'édition et de la création graphique pour ensuite faire une découpe laser et repartir avec votre invention. Vous pourrez franchir un cap le lendemain, le samedi 17 décembre, toujours au Dôme, en passant à la 3D. C'est sur le logiciel FreeCAD que vous pourrez créer un objet en 3 dimensions que vous pourrez imprimer grâce à une imprimante spécifique. N'hésitez pas à vous inscrire à ces ateliers sur le site ledome.info.
Et comme chaque semaine, une recommandation reportage, on vous propose de partir jeudi soir dans le parc national du Serengeti en Tanzanie pour découvrir la faune et la flore qui le composent. Un reportage qui date de cette année et qui vous plonge au cœur de la savane avec une réalisation à la pointe de la technologie, avec des drones, des appareils télécommandés roulants pour découvrir les nombreuses espèces qui vivent dans la savane. Serengeti, la loi de la nature, c'est sur Arte jeudi soir à 20h55 et toujours en replay sur arte.tv.
C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter les précédentes émissions en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Guillaume qui réalisait cette émission. Pas d'émission la semaine prochaine, c'est les vacances. On se retrouve le 10 janvier 2023 pour le retour de C'est pas faux. Bonne journée et bonne fête de fin d'année sur Radio Phoenix.